BW. Droits et libertés.
Le 1er mars, c'est la journée mondiale contre les discriminations, toutes les discriminations. Alors on va parler Niger avec les castes de mariage et le cas d'une jeune fille qui n'a pas eu le droit d'épouser le jeune homme qu'elle aime parce qu'il est originaire d'une famille d'esclaves. Au micro, Sandrine Blanchard, bonjour à tous. Au Niger, les castes sont encore des marqueurs sociaux qui entravent les libertés des plus pauvres. Zainabou, nous l'appellerons comme ça, en a fait l'amère expérience. Elle nous raconte son histoire d'amour déçu au micro de Nafissa Amadou.
Je suis avec mon copain, ça fait 3 ans. Il y a 2 semaines de cela, il a décidé d'amener la dot. Et une semaine après, le grand frère de mon papa a demandé au vieux, au papa, si réellement ils ont fait des investigations, est-ce qu'il est issu d'une bonne famille. Maintenant, après l'investigation, il s'est avéré qu'il est issu d'une famille esclave. Donc, mon papa et son grand frère a demandé à ce qu'on renvoie la dot sous prétexte que je dois finir mes études, car je suis en classe de terminale. Ils m'ont même interdit de le revoir.
Mais est-ce que vous avez quand même essayé de le revoir?
Oui, on s'est vu et je lui ai même expliqué la situation.
Et quelle a été sa réaction?
Bon, il a reconnu qu'il est issu d'une famille esclave, mais il suppose que ce sont des pratiques qui doivent être bannies et vraiment, il dit que ça, lui, ça ne le dérange pas et je suis vraiment d'accord avec lui.
Et maintenant, que comptez-vous faire?
En tout cas, moi, je l'aime et je veux me marier avec lui.
Malgré l'interdiction de votre famille, vous voulez quand même vous marier. Comment vous comptez faire?
Bon, on trouvera un moyen parce que je voudrais négocier le papa et le grand frère du papa. Peut-être ils vont accepter.
Des pratiques qui doivent être bannies, disait Zainabou à l'instant, mais c'est très difficile. Pourquoi? Eh bien, c'est ce que nous explique un défenseur des droits de l'homme et universitaire de Niamey, Hamid Talib Moussa. Lui aussi est interrogé par Nafissa Amadou.
Je m'appelle Hamid Talib Moussa, je suis maître de conférence en éthique, philosophie, politique et morale. Et je suis en même temps le rapporteur général de la Commission nationale des droits humains au titre des universités public en sciences sociales.
Comment est-ce que vous percevez ces questions liées de caste qui vont jusqu'à empêcher parfois des unions?
Pour comprendre cela, il est nécessaire d'abord de comprendre l'origine des castes. En ce qui concerne le Niger, nous pouvons dire que c'est une société pluriculturelle, une société qui a plusieurs dimensions. Nous pouvons parler de la dimension clan, de la dimension des sociétés traditionnelles et qui est en transition vers ce qu'on peut appeler une société moderne. Donc le Niger, du point de vue de sa constitution, est un État moderne, un État républicain, démocratique et laïque. Mais nous avons beaucoup de pesanteurs culturels qui sont encore là et qui nous empêchent d'évoluer vers ce qu'on peut appeler l'épanouissement des droits humains. Or, La société nigérienne, dans le fond, est une société clivée parce que nous avons encore la perception de statut social en noble et en casté. Les castes, en réalité, ce sont les corps de métier. Nous avons les forgerons, nous avons les tisserands, nous avons les cordonniers, nous avons les barbiers, etc., qui sont considérés comme des castes qui n'ont pas le même statut social que ce qu'on appelle les nobles. Les nobles, généralement, ce sont les guerriers. Par le passé, l'idée même d'esclave ou d'esclavage provient du fait qu'il y a des conquêtes guerrières. Les sociétés se font la guerre. Et lorsque vous annexez un village, un royaume, Quand vous ne les tuez pas, vous les transformez en esclaves. Et de ce fait, ils sont considérés comme des sous-hommes par rapport aux vainqueurs. Ceux qui sont nés dans le servage ou dans l'esclavage n'ont pas de droits par rapport au maître. Du point de vue des droits humains, il n'y a pas de sous-hommes. Nous avons tous droit à la dignité humaine. Mais il persiste encore un certain nombre de pesanteurs culturelles qui déterminent notre vécu quotidien. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'est pas permis à n'importe qui de s'unir avec une autre personne. Mais il faut aussi concevoir le fait que le mariage en Afrique, notamment au Niger, votre union engage au minimum deux familles. Donc quand deux individus se rencontrent, un homme et une femme se rencontrent pour vouloir fonder quelque chose ensemble, tout de suite on va dire, bon, on va savoir d'où est-ce qu'un tel vient et qui veut intégrer notre famille. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de mélange entre noble et esclave. Et du point de vue des droits humains, c'est une régression. Je dirais que c'est anachronique. Mais nous ne pouvons pas nier quand même qu'il y a encore la persistance de tous ces clivages, de ces clichés. Bon, ça tend à disparaître. Mais même des intellectuels aujourd'hui, s'ils veulent se mettre ensemble en union, ils sont parfois déterminés par ce genre de considération.
Il y a aussi des couples qui s'entêtent à s'unir malgré ça. Et après, c'est les enfants qui subissent les préjugés et autres.
Les enfants subissent les préjugés parce qu'on va continuer toujours à les traiter de fils d'esclaves. Parce que c'est une culture d'arriéré qui nous ramène toujours en arrière.
Est-ce que vous menez des actions pour sensibiliser, par exemple, les gens? Ou bien est-ce que vous avez eu à traiter des cas? Est-ce que les gens se plaignent? Comment ça se passe? Parce qu'un garçon qu'on accuse d'être esclave, quand même, est-ce qu'il a le droit de porter plainte, par exemple?
Bien sûr qu'il a le droit de porter plainte. Et nous avons fait la médiation pour réparer. Nous avons d'abord convoqué la personne pour lui faire comprendre que du point de vue de la Constitution, c'est un délit qui est punissable. Du point de vue de la Constitution, nous sommes tous les mêmes. Donc nous avons eu ces cas-là, mais nous n'avons pas traité spécifiquement du cas de refus de mariage. Moi, personnellement, j'en ai eu dans ma famille où j'ai eu une carte de mariage. Je vous parle vraiment d'une affaire qui date de quelques 5 à 6 ans où j'ai reçu une carte de mariage d'un de mes cousins qui devait se marier. Donc, 3 jours avant le mariage, les sœurs ont fait des enquêtes pour aller découvrir que en fait, la fille que leur frère voulait marier est issue de la caste des forgerons. Elles sont allées jusqu'au village chercher sa maman pour venir interdire ce mariage. Et elle est venue avec l'idée de la force du lait, si tu ne fais pas ça, moi, je te maudis, etc. Donc, le mariage a été annulé. Moi, je ne le savais pas. C'est le jour du mariage, je me suis présenté puisque j'avais reçu la carte. Et c'est après qu'on m'a donné l'explication que je viens de livrer. Nous faisons de la sensibilisation dans le cadre de ce qu'on appelle la lutte contre toutes les formes de discrimination.
On va arriver à mettre fin à ces histoires de caste, d'esclavage, de classe noble. Est-ce que ça va finir un jour?
Ça va finir. Ça va finir si. Nous avons des structures organisées comme la CNDH, comme les associations qui luttent contre toutes les formes de discrimination, contre l'esclavage. Si des actions de sensibilisation sont menées à l'endroit des populations, également si l'éducation devient une éducation de masse, jusque dans les régions où ces pratiques-là sont encore en vigueur, je suis convaincu qu'avec le temps, ça va disparaître.
Malgré le poids de la société, de la culture, parce que c'est quand même aussi culturel, non?
C'est culturel. Malheureusement, nous sommes dans une société où il y a deux sédimentations. Il y a d'abord les traditions autochtones qui sont là, qui ont encore un poids. Et vous avez également le poids de l'islam, qui est aussi une autre tradition forte. Et donc, la culture des droits de l'homme a en face d'elle ces deux sédimentations qui sont difficiles à faire évoluer. Et à ce niveau, je pense que beaucoup d'acteurs doivent intervenir. Les associations, les médias, l'école et même les politiques publiques aussi.
Une question assez personnelle pour finir cet entretien.
Oui.
Vous, est-ce que vous accepterez de donner votre fille, par exemple, à un monsieur, un tisserand, un forgeron, ou bien à un monsieur qui est traité comme esclave?
Moi, personnellement, je n'ai pas de problème. Parce que ce qui compte pour moi, le critère le plus important pour moi, c'est de savoir est-ce que les deux concernés sont d'accord pour se mettre ensemble. Mais, il faut être honnête, c'est pas moi seul qui décide. Si par exemple ma fille va se marier, peut-être que je ne serai même pas au devant de la scène. Ça va être soit mes frères, mes cousins, mes cousines qui vont s'occuper. Je peux discuter, mais je ne suis pas sûr aujourd'hui d'être en mesure de surmonter cette force de la tradition. Je ne suis pas sûr de le faire. Moi, personnellement, je peux dire que j'ai échappé à une telle situation parce que je n'ai pas laissé quelqu'un d'autre déterminer mon choix lorsque j'ai décidé de me mettre avec mon épouse. Donc, je suis assez ouvert sur ces questions, mais je suis aussi conscient que ma communauté n'est pas encore totalement prête pour franchir le pas.
C'est la fin de ce magazine. Merci beaucoup à Zainabou, Hamid Talib Moussa et Nafissa Amadou. Retrouvez-nous sur internet www.com/français, rubrique nos podcasts, droits et libertés. Rendez-vous la semaine prochaine, même endroit, même heure.